été des toxicomanes. Par exemple, un toxicomane sous l'empire des drogues appelle le mégot un roach, un toxicomane. Un genre de cafard. Or, ce genre de comparaison morbide.
Putain, mais de quoi il parle, ce con-là? Il faut être raide à l'acide pour trouver qu'un joueur ressemble à un cafard. Tu te merdes.
Tous les lundis à 21h sur Radio Canu.
Cannabis Circus.
Cannabis Circus.
Pardon, voilà, ouais. Bonjour à toutes, bonjour, non, vous y êtes, nous y sommes. Ben toi, il fallait que tu parles, tu y étais.
Par je contre, te faisais dessiner. Ouais.
On est bien sur Radio Canu, 102.2 MHz, c'est...
Cannabis et... Circus.
Comme tous les lundis soirs, j'allais dire à l'heure, mais presque. En tout cas,
bah,
à l'heure.
À l'heure, totalement. Voilà. Donc... Et donc, bah, Cannabis Circus, c'est l'émission qui vous est présentée par le Cirque Lyon tous les lundis soirs depuis 24 ans. Voilà. Alors nous, ça fait pas 24 ans. Hein.
Voilà. Oui.
Enfin, pas moi en tout cas.
Hein. Moi non plus.
Ouais, menteur.
Ah, j'étais pas là au début.
Voilà, presque. Donc, comme tous les lundis, nous allons éplucher, décortiquer l'information qui a trait au cannabis et aussi parfois à d'autres substances, produits qui se retrouvent dans la presse écrite, souvent, surtout, hein, parce que dans cette émission on parle surtout de ce qui se lit, de ce qui s'écrit et se lit dans la presse écrite. Et parfois, on fait allusion à quelques autres sources, notamment audiovisuelles. Voilà. Alors tout ça, bah, c'est possible de le voir. C'est très simple. Je vous invite à vous rendre sur YouTube et dans la barre de recherche de YouTube, vous tapez Cirque TV et vous allez tomber sur le Cirque Channel. Et vous allez donc pouvoir, si cela vous intéresse bien entendu et que vous avez un peu le temps, vous allez pouvoir regarder un certain nombre de colloques, de débats, de documentaires audiovisuels, comme par exemple le dernier en date, le documentaire qu'il y a eu sur Arte, un samedi soir il y a 3 semaines, et qui était pas mal du tout. Bah, par exemple, voilà, il a été mis en ligne sur la télé du cirque, sur Cirque TV, donc que vous pouvez accéder à partir de YouTube. Voilà, donc sur cette Cirque TV, il y a toute une autre source d'information qui est très différente de celle qu'on vous relate tous les lundis soirs, et on prend peut-être pas suffisamment le temps de vous en parler. Voilà, en tout cas c'est fait ce soir, on essaiera d'y penser tous les lundis ou presque, mais en tout cas voilà, cette chaîne télévisée du cirque sur YouTube peut vous permettre d'accéder à vraiment beaucoup beaucoup d'autres informations, bah, qu'on pourra pas vous montrer ici forcément, on fait de la radio, hein. Voilà, et donc c'est très intéressant, je vous invite à aller y faire un tour. Voilà, on va revenir à notre
revue de presse.
Notre revue de presse du lundi, que nous effectuons tous les lundis donc, à cette antenne. Donc ce soir, au sommaire, bah, comme tous les lundis, un petit fait divers, un jeune homme de 50 ans, qui est un cultivateur qui faisait pousser du cannabis dans son jardin en Normandie, en région normande. Hein. On va parler un peu de ça, sans doute avant de s'attaquer au reste de l'actualité. On parlera également de cet article de France TV Info qui nous parle de 3 pays qui ont avancé vers l'autorisation du cannabis thérapeutique. On va voir.
Voilà, et même plus que le cannabis thérapeutique, hein, c'est l'Uruguay, là.
Bah, l'Uruguay, en tout cas.
L'Italie,
oui.
et le Pays-Bas. Voilà, bon, c'est. L'Uruguay, Pérou, pardon.
Et Italie.
Et Italie. Voilà, et puis après, on verra aussi en Europe comment ça bouge au niveau des Pays-Bas qui pensent légaliser la production. C'est une grande nouvelle. Est-ce que ça a vraiment avancé? Mais en tout cas, ça serait bien, quoi. À la Belgique aussi, qui pense à la légalisation. On en a déjà parlé un petit peu. Alors, est-ce qu'on s'avance en disant qu'ils pensent vraiment à la légalisation? Ça peut prendre encore quelques années. Mais en tout cas, bon, ça bouge. Voilà, et puis après, ben, on reviendra à plein d'autres petites choses, comme la suite du feuilleton
de l'Octis, où là les flics déposent leur arme de service, on verra ça.
Voilà, on verra sur d'autres endroits où le cannabidiol ne serait plus considéré comme dopant, donc j'ai pas trop bien compris si c'était au niveau du mondial et...
Du mondial ?
Voilà, quoi, je...
Bah là, c'est au niveau du sport.
Au niveau des sports, oui.
C'est l'Agence mondiale antidopage qui a retiré le CBD de la liste des produits dopants.
Donc, voilà. C'est bien au niveau mondial, voilà, tout à fait.
Voilà, on va voir.
Voilà, après, aux États-Unis, il y a des différentes choses par rapport aux opiacés qui sont très utilisés là-bas, y compris de façon légale sous forme de médicaments, bien que leur revente soit peut-être illégale dans le marché noir, donc ça se fait partie de notre deuxième article. Mais en tout cas, c'est que la légalisation du cannabis, a priori, ferait baisser le nombre de morts par opiacés.
Dans les États qu'on légalisait. Ouais.
Voilà, dans les États qu'on légalisait de près de 6-7 points, donc c'est pas négligeable.
Ouais.
Et c'est à suivre.
Alors c'est à suivre. Alors
on va en discuter.
On va reparler de ça. Et puis.
Et puis il y aura le Liban aussi, hein, dans les petites histoires. À moins que voilà, on va déjà en parler un tout petit peu maintenant. Si on n'arrive pas à en parler tout à l'heure, c'est juste que là-bas. Le cannabis étant difficile à cultiver, surtout avec les répressions policières qui, une année sur deux ou sur trois, ravagent les champs, ils ont préféré se mettre à la vigne, qui au moins est légale et lucratif. Voilà, et a priori, il y aurait au Liban un terroir exceptionnel pour la vigne.
Voilà. Et pour finir, s'il nous reste du temps... Eh bien, on parlera peut-être justement de ce scandale qu'il y a aux États-Unis sur la distribution des opioïdes, justement. Voilà, peut-être on arrivera à faire le lien avec l'autre article du Nouvel Obs, là où ils disent que le cannabis a pu sauver des vies. Voilà, on verra ça.
Voilà, les deux articles sont assez liés, hein, puisqu'ils parlent quelque part de la même chose, hein, d'une façon ou d'une autre.
Voilà, et on verra qu'il y a pas mal de corruption aussi dans ces histoires-là.
Voilà, et on voit que c'est évidemment la DEA, l'industrie pharmaceutique qui se retrouve main dans la main pour travailler, donc là aussi c'est quand même quelque chose, c'est ceux qui profitent le plus de la prohibition qui se battent. Voilà, donc on revient sur cette petite anecdote d'autoculture dont le procès aura lieu le 19 mars 2018. Je ne sais pas si on pensera à vous le relater.
Bah peut-être qu'il y aura
ou
eu
si on le verra passer.
Un article. Voilà, en tout cas, donc, dans cet article de Actu.fr Normandie, il s'agit donc, comme je vous disais, d'un jeune homme de 50 ans, un habitant de Fécamp, en Seine-Maritime. Qui a vu la police de la sûreté urbaine débarquer chez lui lundi dernier vers 15h30 en plein après-midi. Voilà, ils ont eu connaissance d'une plantation de pieds de cannabis chez cet individu et ils ont constaté sur place qu'il y avait bien du cannabis qui poussait dans une serre dans son jardin. Certains pieds avaient déjà été récoltés, apprend-on, et d'autres poussaient toujours. Et donc l'occupant des lieux, un homme de 50 ans, sans emploi et inconnu des services de police, a donc été interpellé et lors de la perquisition à son domicile, les policiers ont trouvé chez lui, écoutez bien, un grinder. Ouh là là, alors attention entre parenthèses, note de la rédaction, outil pour broyer les feuilles. Et ils ont également trouvé, alors là, accrochez-vous fermement, 1 gramme de résine de cannabis et ils ont saisi le tout ainsi que les pieds encore en culture. Ah là là. Donc, en garde à vue, ce jeune homme de 50 ans expliquait que oui, il consommait du cannabis depuis une trentaine d'années et qu'il avait tout simplement eu l'idée de le cultiver lui-même, hein, comme beaucoup de gens le font d'ailleurs, pour éviter d'aller en acheter dans la rue. et que ce cannabis ainsi cultivé était uniquement destiné à sa consommation personnelle et qu'il avait déjà consommé une partie de sa production d'ailleurs à Le Gourmand. Et donc voilà, comme tu disais, il fait l'objet d'une convocation avec reconnaissance préalable de culpabilité et il passera au tribunal, comme tu le disais, donc le 19 mars prochain. Voilà. Une grosse affaire. Hein. Ouh là là, un grinder et un gramme. Hein. Puis quelques pieds qui poussent. Ouh, 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 ouh. Voilà. Donc allez, musique et on revient tout de suite après.
Et on écoute le John Spencer Blues Explosion.
Donc, après ce court morceau explosif et un peu grunge, même dans son esprit, je dirais, sympa, trois pays avancent vers l'autorisation du cannabis thérapeutique. Apprenait-on sur francetv.fr en fin de semaine dernière.
On va pas dire qu'on l'apprenait quand même. Hein.
Pour l'Italie un peu.
C'est l'Uruguay, le Pérou. Oui, un peu, mais bon, on en avait déjà entendu parler.
Oui, mais enfin, ce qui vient d'être voté, qui n'est pas encore soumis, passé au Sénat, est nettement incomplet par rapport à ce dont on avait parlé précédemment. Oui. Ouais, on va voir. Voilà. Je te sens perplexe.
Oui, tout à fait. Bref, en tout cas, il y a des nouvelles mesures qui ont été prises. Et c'est surtout des questions par rapport au Sativex, hein, dont il est question dans cette présentation vidéo, si je me trompe pas. Hein. Voilà, donc... en tout cas, sur ce Sativex, qui est toujours en attente en France, il me semble, puisqu'il n'y a toujours pas eu l'accord du CEPS, du Comité économique des produits de santé. Voilà, donc il est autorisé, mais il n'est pas mis en vente encore. Bref, en tout cas, il y a trois pays, l'Uruguay, le Pérou et l'Italie, qui sont plus pionniers là-dessus et qui les légaliseraient aussi, donc ce Sativex ou la marijuana. Donc, l'un de ces pays dont il parle est l'Uruguay, évidemment, qui est un pionnier dans le récréatif et aussi dans le thérapeutique, puisqu'il rappelle que donc en Uruguay, le cannabis, la production, etc., la vente est autorisée dans certaines conditions. Il y a aussi donc la vente dans les pharmacies pour tous les gens qui en ont besoin pour une raison thérapeutique.
Alors là, justement, dans les pharmacies, on peut se procurer des médicaments donc sur ordonnance composés de cannabidiol. De cannabidiol. C'est de ça dont il s'agit. Là, on ne parle pas de se procurer des fleurs séchées de variétés fortes en CBD.
Oui, tout à fait.
Voilà. Non, mais c'est important.
Tout à fait. Non, mais c'est vrai. Mais les deux sont possibles quand même.
D'accord, d'accord.
Puisque dans les pharmacies, ils pourront trouver de l'air. Mais si j'ai bien suivi nos anciens articles.
Ouais. Non, mais comme ça peut changer.
Voilà. Ça évolue, c'est pour ça que.
Parce que là, ils n'en parlent pas dans ce petit paragraphe.
Tout à fait, je suis prudent. Alors, ils ne parlent pas non plus qu'ils vont vendre le Sativex hein, dans cet article-là.
Non. Hein,
si j'ai bien suivi aussi. Mais bon, en tout cas, ça avance depuis l'été 2017. Hein, et c'est l'époque à laquelle, justement, il y avait eu différentes discussions, justement, sur la vente de ce cannabis de fleurs séchées, justement.
Mais voilà. Non, mais parce que ce qui se passe quand même, ça, on peut le dire, apparemment, enfin, c'est vrai, hein, c'est qu'il est possible de monter un cannabis social club en Uruguay.
Tout à fait.
Donc, rien n'interdit aux membres du cannabis social club de cultiver des variétés richement dosées en CBD et moins en THC ou vice versa, enfin bon bref, du coup voilà, enfin il y a quand même une palette de possibilités légales en Uruguay pour cultiver des variétés récréatives ou plus thérapeutiques ou les deux, enfin bref,
plus large, mais je sais pas s'ils ont le droit à toutes les possibilités à toutes les graines. Toutes les variétés sont autorisées. Là aussi, je ne sais pas s'ils ont toutes autorisées.
D'accord.
Ah, et c'est compliqué quand même, mais voilà. En tout cas, il rappelle que d'autres pays comme le Mexique, la Colombie, l'Argentine et le Chili ont infléchi leur position dans le contexte de légalisation progressive de la marijuana sur le continent américain.
Et oui. Donc le SAM,
on dirait surtout sud-américain dans ce contexte, mais un petit peu américain, c'est exact. Voilà, et il y a le Pérou qui vote en faveur des antidouleurs, donc c'était donc jeudi dernier, hein, ça fait rare.
Quelques jours. Hein.
Il y a quelques jours. Donc qui ont adopté, c'est le Congrès qui a adopté une loi favorable à l'usage du cannabis thérapeutique. Voilà, donc
ouais. Je sais pas. Alors c'est intéressant dans ce petit article, là où ce petit paragraphe où on nous parle du Pérou, ce qui est intéressant c'est de voir un peu qui est un peu à l'origine, hein, je sais pas si tu t'as vu, hein, c'est un peu à la demande, alors au départ c'est à la demande d'un groupe de mères, de mamans, hein, dont les enfants étaient victimes de maladies graves comme des cancers, ou... Alors, l'épilepsie, des crises d'épilepsie particulièrement aiguës, hein, ce qu'on appelle le syndrome de Dravet. Hein, voilà, donc ces mamans qui étaient en fait confrontées à une situation telle par rapport à leurs enfants que bah, aucun médicament existant permettait vraiment de soulager leurs enfants. Donc voilà, c'est un peu à la demande de ces femmes, hein, en fait, mères de famille, en fait, que le projet de loi avait été proposé par le gouvernement, c'était en février dernier. Voilà. Et d'ailleurs, ces mamans, dans l'article, on nous dit qu'elles avaient elles-mêmes développé une huile à base de marijuana et qu'elles s'étaient retrouvées, d'ailleurs, aux prises à la justice, hein, avec la justice. La consommation de cannabis étant interdite au Pérou. Voilà. Et là, donc, il semblerait que le gouvernement péruvien ait un peu entendu leurs doléances.
Tout à fait.
Voilà. Donc, c'est plutôt positif, voire très positif, hein.
Voilà, en Italie aussi, il y aurait une avancée contrariée par des dissensions entre parlementaires.
Eh oui. Alors c'est les députés hein, qui ont en fait adopté un projet de loi, alors c'était jeudi dernier aussi, un projet de loi qui porte uniquement sur l'aspect thérapeutique du cannabis, là, sur les... Donc, voilà. Alors par contre, au départ, on en avait déjà parlé l'année dernière, le projet de texte initial était beaucoup plus large. Hein ? On proposait aux députés en 2016 de quand même de maintenir l'interdiction de la vente entre particuliers, mais autoriser l'autoculture jusqu'à 5 plants personnel, hein, 5 plans, et il était éventuellement prévu qu'on n'embête pas trop des usagers qui aient moins de 15 grammes sur eux, en fait, ou chez eux. Voilà. Par contre, ce projet de loi, il maintenait quand même l'interdiction de fumer dans les lieux publics ou au travail. Alors, le projet de loi qui a été adopté jeudi dernier, il parle plus du tout de ça, hein, en fait. Hein, il retient uniquement la possibilité pour un médecin, en fait, de prescrire des médicaments à base de cannabis pour une durée ne dépassant pas 3 mois. Donc, ouais, il y a quand même un fort recul. Hein,
oui.
Voilà, donc quid des aspects récréatifs, hein, qu'on a complètement mis de côté pour le moment. Et une petite ouverture pour le cannabis thérapeutique, une petite ouverture, mais qui va vite se fermer, hein, pour les personnes concernées. Parce qu'au bout de 3 mois, soit le médecin n'a plus le droit de prescrire de médicaments à base de cannabis, hein, soit il faut qu'il demande une autorisation. Alors c'est pas dit, mais je pense que ça peut être possible. Il faudra qu'il demande une autorisation aux autorités sanitaires de son pays, ce qui est vraisemblablement... ce qui va se passer pour les personnes concernées. Voilà. J'ose pas imaginer quand même qu'au bout de 3 mois, on dise aux patients ou aux médecins, bon, maintenant c'est fini, on a essayé le cannabis, les médicaments à base de cannabis thérapeutique, on va dire, et puis maintenant c'est fini, au bout de 3 mois, il n'y en a plus. Je suis pas certain quand même. Voilà, on verra.
Ouais.
On en reparlera, évidemment.
Voilà, donc c'est encore un sujet qui divise en Italie
et
encore plus, qui est pas mal, quoi, qui, si c'est majoritaire dans la population, ne l'est pas du tout dans leur parlement. Et je crois que chez nous, c'est un petit peu pareil pour l'instant. Et la fin de l'article leur rappelle qu'en France, il n'y a que le marinol qui est autorisé.
Ah, qui est autorisé en faisant une demande d'autorisation temporaire d'utilisation.
Tout à fait.
Voilà, et on sait qu'en gros, il y en a peut-être pas plus de 200-300 qui sont... pas plus d'une centaine par an qui sont autorisés.
Et le Sativex risque d'être...
Et le Sativex, pour l'instant, il n'est pas accessible du tout, quoi. Voilà.
Voilà, alors dans les pays où ça se passe un tout petit peu mieux...
Et proche de chez nous, hein. C'est-à-dire pas
proche de chez nous, toujours en Europe, monde, hein. Hein, toujours, voilà, pas du côté des Amériques...
Mais là, c'est
de l'Amérique du Sud.
Aux
Pays-Bas. Donc le cannabis sera bio et produit par l'État.
On a déjà un peu parlé
ça, la semaine dernière. Ouais. C'est Le Soir Belgique qui écrit ça. C'est un petit peu exagéré. Je ne sais pas exactement où ils en sont. Hein, mais l'État néerlandais va autoriser les exploitants triés sur le volet à cultiver du cannabis. La production de ces drogues douces sera distribuée aux consommateurs sous contrôle des mairies. Voilà, donc c'est le royaume des Pays-Bas qui s'apprête à devenir le premier pays de l'Union européenne à légaliser la production de cannabis. Donc voilà, ça c'est un revirement politique, a priori, c'est un projet qui figure dans l'accord de coalition signé en début de la semaine à La Haye, donc c'est quand même une expérimentation assez nouvelle qui veut couper l'herbe sous les pieds aux trafiquants.
Une bonne fois pour toutes.
Voilà. Parce qu'en fait, c'est surtout ceux qui se sont aperçus que les trafiquants utilisaient beaucoup de produits chimiques. Et ils arrivaient même, alors là, je sais pas comment ils arrivent à écrire ça, mais les fortes quantités de substances psychotropes qu'elles contenaient étant obtenues par l'addiction de produits chimiques. Voilà, j'ai pas trop bien compris ce que c'était ça, si c'était un mélange ou une mauvaise traduction.
Faut reconnaître qu'il y a peu de journalistes qui écrivent sur le sujet et qui s'y connaissent. Hein. Donc moi, quand j'ai lu ça, je dis bon.
Voilà, mais bon, en tout cas, je pense que c'est peut-être dans la culture et justement de la.
Bah, ce que ça veut peut-être.
La culture insensible du cannabis qui est faite avec n'importe quel produit qui ne sont pas forcément les meilleurs.
Le fait d'utiliser des engrais pour booster la production de quelques plantes que ce soit d'ailleurs. Hein. Je pense que c'est aussi pour ça. Je pense que c'est plutôt. Par rapport à ça, qui disait ça. C'est sûr que si on plante une plante quelle qu'elle soit et qu'on l'arrose pas et qu'en plus on lui donne jamais d'engrais, ben elle va pas donner grand chose. Voilà. Après, voilà. Ça m'étonne pas qu'il y ait des cultivateurs pas très honnêtes qui mettent un max d'engrais pour booster à fond la production de leurs plantes, quoi. Ça me paraît logique même dans un si on, pour faire du rendement.
Voilà, mais bon, en tout cas, justement, dans les différents cannabistros qui existent en Hollande, il y en a qui sont mis sous une association, la plateforme, plus ou moins. Et eux, ils se réjouissent de ce dispositif, hein, qui s'est appuyé par certains maires de leur petite ville, je sais pas, parce qu'en fait, a priori, il doit y avoir différents courants dans les cannabistros. Et en tout cas, ceux-là disent que les consommateurs veulent pouvoir connaître l'origine des produits avec la garantie qu'ils ne contiennent pas de pesticides.
C'est normal.
Et c'est normal. Et donc, c'est grâce un petit peu à ça, à ces attaques sanitaires, Alors, je sais pas.
Quand on va faire ses courses au supermarché, on n'a pas envie, par exemple, qu'il y ait des OGM dans sa bouffe ou des perturbateurs endocriniens, du bisphénol et des phtalates ou je ne sais quoi. Bon. Voilà, tout simplement, ça me paraît tout à fait normal en fait. Hein. Voilà. Alors, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'à la fin de l'article, on nous explique sans trop l'air, hein, sans trop d'avoir l'air, que quand même, c'est bien aussi de mettre tout ça un peu réglo parce que en fait, ce système de dépénalisation qu'il y a aux Pays-Bas, qui est un système gris en fait, hein, qui est pas clair, hein, qui est pas vraiment légal, mais pas illégal. Enfin, il s'est toléré. Sauf que s'il y a bien des institutions qui savent comment profiter de l'existence des coffee shops, c'est bien les banques. Et la plupart des banques, des grandes banques hollandaises, ABN AMRO, ING, Rabobank. Elles sont complètement intégrées dans l'économie de la drogue et du cannabis. Alors de la drogue, on le sait aussi de par le monde, mais là aux Pays-Bas, en tout cas au niveau des cannabis. En tout cas, sur les 171 coffee shops Amstelodamois, il y en aurait 570. Sur les 570 coffee shops qu'il y a aux Pays-Bas, il y en a 171 qui figurent dans le portefeuille des banques pour un montant d'emprunt de 1,1 milliard d'euros. Voilà. Il y a aussi des prêts qui sont accordés à des coffee shops pour faire leurs affaires. Dans le secteur semi-public, il y a des sociétés de gestion immobilière, dont des offices HLM, par exemple, qui consentent aux coffee shops des baux commerciaux. Et le fisc, lui, il ponctionnerait plus de 500 millions d'euros par an dans les caisses des coffee shops. Donc bon, c'est sûr qu'en voulant mettre tout ça au clair, en faisant une loi pour que tout soit bien réglementé, ça va faciliter beaucoup de choses. Et ça va rendre les choses claires.
Oui, et je pense que quand je vois ces chiffres, je suis assez impressionné. Hein, et je me dis que c'est quand même... ils ne ponctionnent pas tout, et ils ponctionnent quand même 500 millions d'euros. Pour un pays quand même qui est 10 fois plus petit que la France, quoi.
Après,
nous, quand on parle de 2 milliards, 1 ou 2 milliards de taxes, on est peut-être bien en dessous de la réalité des choses.
Oui, après, bon, c'est difficile à savoir. À partir du moment où il n'y a quand même qu'un seul pays en Europe qui avait quand même facilité un certain nombre de choses au niveau du cannabis, beaucoup de cet argent, en fait, n'est pas uniquement l'argent de la consommation intérieure. Là, c'est dans l'article, hein, je ne sais pas où, là, il y a une bonne partie de ce qui est produit aux Pays-Bas qui va à l'exportation, en fait. Mm-hmm. Voilà. Donc, bon, on verra ce que ça donne, mais... Si, en tout cas, ça permet de mettre sur le marché des produits plutôt sains, cultivés bio et tout, c'est quand même mieux pour le consommateur.
Tout à fait. Alors, il y a dans les brèches, hein, qui permet aussi aux Pays-Bas d'avancer, c'est quand même ce qui s'est passé aux États-Unis, hein, ça leur a permis aussi d'asseoir leur position.
C'est vrai que jusqu'à présent.
De pouvoir tenir face à l'opprobre des autres pays européens.
La France en particulier.
Voilà, donc je sais pas comment réagit notre Macron par rapport à eux, s'il va avoir aussi les mêmes coups de menton que Sarkozy ou le de noyade de poisson de à la Hollande, mais En tout cas, ils tiennent bon.
Hollande qui n'était pas hollandais, en tout cas.
Voilà, et en tout cas, ils tiennent bon, les Hollandais, ils avancent. Et les Belges aussi seraient sur la, voie de la légalisation aussi, si je ne me trompe pas.
Je trouve que tu t'avances beaucoup, là, quand même.
Je m'avance trop, vas-y.
Oui, c'est un petit article qui fait suite à cet article du soir.be, là. C'est une question qui se pose. Hein. Est-ce que la Belgique est prête à encadrer la production de drogue comme aux Pays-Bas? Il y en a un qui dit qu'il n'existe pas de plan d'adaptation de la loi néerlandaise en Belgique. Voilà, après, je dirais que c'est un peu partout pareil, hein, en Europe. Hein. Ceux qui sont plutôt pour que ça avance, c'est le Parti Socialiste. Oui, il y a toujours un Parti Socialiste en Belgique. Hein. C'est aussi le Parti des Écolos qui est favorable. Il y a aussi d'autres pays, d'autres partis qui le sont. Alors là, par contre, je sais pas, le MR, le CDH et la NVA. Par contre, eux, pas question. Mais le PTB et DEFI, je ne sais pas qui sont ces partis, sont globalement favorables à une dépénalisation, au moins à une dépénalisation, à condition qu'un contrôle soit exercé sur la vente et la consommation. Mais déjà, là, ça va pas, parce que si on dépénalise, on fait pas de contrôle de la vente et de la consommation. Là, si on est là-dedans, on est dans la légalisation, on n'est pas dans la dépénalisation. Bref, c'est encore...
C'est une légalisation contrôlée ?
Oui, non mais si tu fais que dépénaliser, tu fais pas de contrôle sur la vente et la consommation.
Ah oui, tout à fait.
Voilà,
tout
donc,
à fait.
Bon, encore des termes à apprivoiser là pour...
Beaucoup de gens...
Pour Ludivine Poncio, qui est la journaliste qui écrit ce petit bout... voilà, et on nous rappelle donc en septembre dernier, donc il y a un mois, hein, les socialistes avaient déposé à la Chambre une proposition de loi suggérant d'organiser à travers un cadre légal strict un contrôle public du marché. Ce contrôle qui s'exercerait sur l'ensemble du processus de production, du plan jusqu'aux volutes de fumée. Et en marge de cette proposition de loi, un politicien qu'on connaît un petit peu en France, qui s'appelle Elio Di Rupo, qui lui veut carrément créer un cannabis social club. À Mons, voilà. Et on nous parle également du bourgmestre de la cité du Doudou. Moi, je vous assure, hein, c'est ce qui est écrit dans l'article. Je ne sais pas ce que c'est que la cité du Doudou. Mais en tout cas, le bourgmestre de cette cité a mis en place un projet pilote incluant 200 participants encadrés par des acteurs de prévention de la santé, des universités, du ministère de la Santé, de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé. Donc, c'est un sacré projet aussi. Et dans le milieu académique également, certains experts estiment qu'il faut aujourd'hui aller plus loin que la dépénalisation du cannabis et engager la Belgique sur la voie de la légalisation, et ce, afin d'éteindre le trafic.
Et il rappelle que ces experts ont fait le constat de l'échec des politiques répressives.
Voilà. Donc voilà, beaucoup de questions pour la Belgique, même si il y a des forces qui sont prêtes à faire évoluer les choses positivement, et donc d'autres acteurs farouchement opposés à toute modification des lois, voilà. Alors on va voir, on verra si le PS est plus... la Belgique est plus pragmatique que la France sur ce sujet. On verra.
J'ai entendu dire que le PS du Rhône vivait encore. Il y en a qui l'ont vu bouger.
Bien, bien. Bon, allez, musique et on revient tout de suite après.
Et on écoute Corner Shop, un groupe anglais avec des Indiens dedans. Ah ouais. Et ça chante en français.
Chaque fois que tu chantes une de ces chansons, chaque fois que tu chantes une de ces chansons, et demain ne viendra jamais. Mes jours de bal perdu, mes jours de bal perdu, et demain ne viendra jamais. Mes jours de bal perdu. Thank you. important cette nuit qui durerait une semaine. Moi dans mon unique costume, toi dans ta plus belle robe. Important cette nuit qui durerait une semaine. Désormais une nuit n'est qu'une nuit, que les six autres sont longues. Mes jours de bal perdus et demain ne viendrait jamais. Mes jours de bal perdus.
Intermède musical. Alors.
Alors le Chris, le feuilleton, oh là là. On vous rappelle tous les épisodes, rien que pour rire, très rapide.
Ben, le principal en tout cas.
Ben, le 1, c'était la découverte de cette donne à Paris.
7 tonnes 2, boulevard Axel Mons, à Paris. François Hollande qui se déplace et qui fait cette allocution mémorable. J'espère que cette saisie portera un coup fatal au trafic de drogue en France.
Ah. Premier épisode. Attends, ou l'introduction.
Ouais, ouais.
Bon, là-dessus, c'était les douanes, en fait, qui ont chopé ça.
Ouais.
En fait, et c'était un truc organisé par l'actrice.
Oui, c'était...
Et on a appris quand même que dans ces 7 tonnes, il y avait quand même 21 tonnes qui sont rentrées ce jour-là. Et que c'était pas la première fois.
Non.
Au moins la deuxième ou troisième ou quatrième. Donc tout ça, on l'apprend épisode après épisode. Tout ça est couvert,
oui, et d'ailleurs,
toujours par l'actrice.
Voilà, dans un épisode, on a appris que la police espagnole était sur les dents. Parce que, comme tu dis, il y a des tonnes qui sont passées et on sait même plus où elles sont, en fait.
Tout à fait.
Et d'ailleurs, c'est un peu par là que c'est parti, hein, visiblement.
Et c'est entre autres pour ça que le François Thierry, donc, qui est le directeur le plus gradé de l'actrice, a été démis de ses fonctions, rétrogradé et n'a plus le titre d'officier
police judiciaire. Ouais.
Si je...
Ah, c'est très récent.
J'ai
ça,
bien suivi tous les derniers épisodes, parce que c'est pas, oui, c'est pas quotidien, mais voilà. En tout cas, comme il a même été mis en examen fin août, hein, pour complicité de trafic de stupéfiants en bande organisée, donc François Thierry, et on lui a retiré son habilitation d'officier de police judiciaire. Voilà. Tout à fait. Donc, en tout cas, il y a deux autres policiers du service qui ont été mis en examen dans une autre affaire.
Et oui, parce que voilà, depuis ces soucis-là, il y a des magistrats qui se penchent en fait sur les méthodes de l'Octis, en fait. Et voilà, c'est aussi pour ça qu'il se passe ça, en fait. C'est parce que jusqu'à auparavant, les magistrats avalisaient en fait les procédures, sans trop les regarder visiblement, et alors sans trop se rendre compte qu'effectivement il y avait plusieurs kilos, voire tonnes qui disparaissaient. Mais une fois que le loup a été levé, maintenant voilà, il y a d'autres magistrats qui enquêtent. Et
Voilà, et c'est des magistrats, donc, qui sont des juges d'instruction de la juridiction interministérielle spécialisée...
Interrégionale,
oui, spécialisée, les GIRS.
Les GIRS, ouais.
Entre autres de Paris, et ces magistrats qui sont dans ces actions reprochent aux policiers qui travaillent avec eux de jouer un rôle actif, de faire jouer un rôle actif à leur indic. Et donc, évidemment, à partir de là, y a un petit peu un clash entre les policiers de l'octrice
et la magistrature.
Et la magistrature. Et donc, 70 policiers
la semaine dernière,
ont déposé leurs armes.
Pour montrer leur mécontentement et, j'irais même, l'intrusion, en fait, de la magistrature dans leur méthode, en fait.
Voilà, et de... Voilà, donc après, ici, il faut écouter ce qu'ils ont à dire, ces pauvres gens qui travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ces pauvres officiers des stupéfiants, se présentent comme des fonctionnaires intègres, investis, ne comptant ni leurs heures ni leurs sacrifices personnels. Ils refusent d'être traités comme de vulgaires délinquants. Non, mais c'est des gens, des policiers de l'octrice non plus. C'est pas des vulgaires trafiquants. Hein. Voilà. Donc, c'est l'épisode du jour sur l'octrice. C'était ça. C'était
voilà. C'est 70 collègues, en fait, de François Thierry. Enfin, 70 de ses affidés, en fait, ou de ses... De ces enquêteurs, des policiers du service qui sont pas contents, qui le font savoir et qui ont déposé leurs armes. Donc c'est une espèce de grève, une manière de montrer son mécontentement.
Voilà, alors est-ce que c'est une grève que juste pour un jour ou total? Enfin, j'ai pas tout bien compris, faudrait voir, mais...
Mais je... Honnêtement, je suis... Je suis curieux de voir comment ça va se passer. Je serais pas étonné que le pouvoir politique intervienne et qu'il donne raison aux flics contre la magistrature. Je serais pas surpris.
Moins qu'ils décident d'arrêter la prohibition.
Ouais, on n'en est pas encore là.
On sait jamais. Hein.
Moi, je trouve que c'est très important.
Un éclair de génie.
Je trouve que c'est très intéressant comme histoire parce qu'encore une fois, c'est pas qu'une affaire franco-française. On en avait déjà parlé, hein. On l'a dit là il y a deux minutes au niveau des quand on relatait les différents épisodes, mais ça a quand même démarré en Espagne cette histoire parce qu'il faut faire rentrer la marchandise sur le continent européen et dans l'histoire là avec François Thierry, il y a eu quand même la police et la magistrature espagnole. Qui a travaillé avec l'Octrice et la magistrature française, justement, sur ce suivi d'importation de cannabis, et le suivi de la marchandise jusqu'au point de livraison à Marseille. Et, la magistrature et la police espagnole, se sont demandé, en fait, encore une fois, hein, où était passée la marchandise. Et c'est de là que ça s'est remonté après jusqu'à Paris et ainsi de suite. Donc, je pense que ça pourra pas, même si le politique intervient, ça pourra pas passer comme ça. Parce que justement, y a des magistrats et des policiers espagnols qui se sont bien rendus compte que la police était corrompue, quoi. La police française et l'OCTIS, hein, l'Office central de la répression du trafic illicite de stupéfiants, étaient quand même corrompus dans cette histoire. Et qu'il y a quand même plusieurs dizaines de tonnes, on ne sait pas où elles sont passées.
Oui.
Et qu'elle a peut-être servi, que c'est peut-être ces tonnes-là qui ont été disparues, ont servi à être, enfin, ont été vendues et peut-être les indicateurs ont été rémunérés, grassement rémunérés, quoi.
Voilà, c'est plutôt les indicateurs, a priori.
Ah, il n'y a pas que, parce que.
On n'est pas comme avec l'histoire de
Néret.
De Néret, ouais. Voilà, avec de l'enregistrement personnel, hein, là-dessus.
Non, c'est vrai que c'est suspecté.
C'est suspecté.
Mais pour l'instant, ils n'ont pas trouvé.
J'ai rien lu là-dessus.
Non, ils n'ont pas trouvé. Mais il y avait eu un gros article en début septembre.
Oui, tout à fait. Mais.
Mais du coup, ils n'ont pas de preuves pour l'instant. Mais en tout cas, enfin, ils ne savent juste pas où est passée la marchandise, mais ils n'ont pas de preuves que elle a été vendue et que François Thierry se soit enrichi personnellement dans des proportions disproportionnées. Voilà. Bon voilà, en tout cas le feuilleton suit son cours.
Voilà, ça
et
continue.
Prochain épisode bientôt, au prochain numéro dans quelques semaines.
Voilà, dans l'épisode d'aujourd'hui, donc on sait qu'il existe plein d'autres petites affaires pareilles ailleurs avec d'autres actrices qui ont utilisé, qui ont fait jouer un rôle un peu trop actif à leurs indiques. Voilà, donc ça c'est interdit. Hein.
Ouais, alors. Voilà pour Locritis, on suit le cours du.
Oui, ouais, tout à bon, fait, voilà, cette petite brève qui est très intéressante, hein. De la WADA, donc c'est l'Agence Mondiale Antidrogue.
Antidopage.
Antidopage, pardon. Pff, bon,
c'est pas la.
Quelques petites.
C'est pas l'ONU-DC, non.
Un lapsus. Donc la WADA a annoncé avoir mis à jour la liste des substances interdites pour 2018. Et dans laquelle il a été retiré donc le CBD, donc le cannabidiol, l'un des composants du cannabis reconnu pour ses vertus anti-inflammatoires et relaxantes pour les muscles et qui ne contiennent pas la psychoactivité du THC. Et donc c'est l'herbe qui est actuellement légalisée en Suisse depuis quelque temps.
Voilà. Alors c'est pas mal quand même ça, parce que déjà ça veut dire que il considère que dans le cannabis, il y a une substance, donc le CBD, et que celle-ci ne peut pas être considérée comme dopante. Ce qui est déjà, je trouve, c'est pas mal du tout. Hein. Alors, il y a des sportifs qui utilisent le CBD. Alors là, il donne l'exemple d'un combattant américain qui s'appelle Nate Diaz, qui est en fait un pratiquant du MMA, c'est le Mixed Martial Art. Et voilà, donc ce combattant avait reconnu en 2016 vapoter du CBD, en fait, dans sa cigarette électronique. Et il disait, voilà, ça m'aide à me remettre des inflammations, j'utilise avant ou après un combat à l'entraînement pour me faciliter la vie. Voilà. Alors il avait quand même reçu un avertissement à l'époque de l'agence antidopage américaine, de l'USADA, hein. Mais il se trouve que la position, en tout cas, des instances anti-doping, en tout cas au niveau mondial, est prête à évoluer. La WADA, qui est donc c'est World Anti-Doping Agency ou Administration, la WADA, ça veut dire ça, qui explique que le cannabidiol synthétique n'est pas un cannabis mimétique. Cependant, le cannabidiol extrait des plantes de cannabis peut aussi contenir des concentrations diverses de THC, qui reste pour sa part une substance prohibée. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire que le cannabidiol synthétique n'est pas cannabis mimétique. Je n'ai pas eu le temps de chercher l'info, ça m'est passé un peu au-dessus, je ne sais pas. Voilà. Voilà, tu as une idée ? Je te sens perplexe. Ça veut dire quoi, cannabis mimétique ? Le cannabidiol synthétique n'est pas un cannabis mimétique. C'est-à-dire que ce que je comprends a priori, c'est que le cannabidiol de synthèse n'est pas comparable avec du cannabidiol naturel.
Sans doute, il doit y avoir des nuances, je ne saurais pas.
Parce qu'après, on nous dit que le cannabidiol extrait des plantes de cannabis peut aussi contenir diverses concentrations de THC, et que donc dans le cannabidiol synthétique, il n'y en a pas de concentration de THC, il n'y a que du cannabidiol. Voilà, voilà. Moi, j'ai compris ça comme ça. Voilà. Bref, on verra. Comment dire. Je serais curieux de voir si la recommandation de la WADA se traduit dans les textes de l'Agence française antidopage. Je ne pense pas, mais on verra. On verra. Il y aura peut-être des cas. Hein, d'ailleurs, on verra. Hein, c'est intéressant. Pareil. On suit les épisodes. Ensuite.
On se fait ce petit truc sur les conduites addictives chez les adolescents.
Ah, bon, si tu veux, on va pas
avant de faire un peu de musique.
Pas grand chose à dire non plus, même si bon.
Oui, bon, bah, c'est une consommation qui serait contrôlée puis abusive. Le complexe géométrie psychique du consommateur de cannabis. Voilà, donc en tout cas, c'est quelque chose sur les conduites addictives de l'adolescence, chez l'adolescent en général, hein. Et la nouvelle, l'avancée des nouvelles technologies, Internet et jeux vidéo, la prolifération de l'offre des produits stupéfiants, une certaine banalisation des alcoolisations aiguës sont autant de défis pour l'adolescent, ses parents et toute sa famille.
C'est
voilà,
un bouquin,
donc,
en fait,
hein. Comment ?
C'est l'extrait d'un livre qui s'appelle Jeux vidéo, alcool et cannabis, qui est écrit par Olivier Fan, PHAN, aux éditions Solar.
Et donc là, c'est tout ce qu'il dit sur l'adolescent consommateur.
Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que il essaye de montrer que il y a différents profils de consommateurs, en fait.
Oui, tout à fait.
Et que du coup, ben, c'est pas mal, en fait, même si, bon, je suis pas tout d'accord avec ce qu'il dit.
Oui, c'est peut-être un petit peu... comme toutes les généralisations, c'est forcément restrictif. Mais déjà, deux états de consommation, c'est déjà pas mal. Donc un état de consommation contrôlé, récréatif et épisodique, tel que Damien le décrit. Là, je sais pas de quoi il parle s'il s'agit d'un des étudiants, mais en tout cas, ça c'est...
Bah, c'est l'un des cas, l'un des adolescents consommateurs. Voilà. Donc là, il y a Damien. Après, il y a Christobald. Qui lui est vraiment dans l'addiction. Donc, comme il veut visiblement plutôt parler de l'addiction, il parle moins de Damien, en tout cas. Parce que Damien, voilà, comme il dit, à ce niveau, le plaisir s'inscrit dans une consommation occasionnelle. Les autres plaisirs de l'existence sont conservés, il s'agit d'un plaisir parmi d'autres, ne pas fumer n'est pas une difficulté. L'adolescent est en capacité de renoncer. Pour la majeure partie des adolescents, la possibilité du maintien d'une consommation récréative est possible, et je trouve que c'est très intéressant de lire ça. Le refus de la sollicitation est de l'ordre du faisable. La consommation n'est pas source de conflit. Dans la préconsommation, l'adolescent pourra se dire qu'il a apprécié de prendre un risque, mais que des limites sont nécessaires. Voilà. Il n'y a encore pas si longtemps, certains propos, on va dire, psy, parce qu'on est quand même dans un discours psy, on lisait pas forcément ça. Hein, donc là, voilà, chez l'adolescent, consommateur, donc un mineur, pas mal. Pas mal du tout. Alors après, effectivement, on parle de... Enfin, Olivier Fan nous parle de Christobald, qui lui, en tout cas, a plutôt basculé dans l'abus et la dépendance, et pour qui ce sera inévitable, parce que c'est son profil, visiblement. Et ce d'autant que la dépendance viendra faire fonction de régulation des émotions. Intéressant, intéressant. Et il dit que ce basculement, en fait, s'effectue peu à peu. Voilà. Une fois le plaisir du joint disparu, d'autres processus s'installent. Pas tout de suite, pas d'entrée, pas après le premier, le deuxième joint, non. Petit à petit, l'adolescent va développer un désir sans limite, à l'image d'un paquet de marshmallows dans lequel on se surprend à ne pas pouvoir s'arrêter de piocher malgré l'écœurement. Petit à petit, insidieusement, le voile grisonnant d'une bulle va s'installer. Il nous décrit quelqu'un qui est quasi dans la boulimie, en fait, hein. Voilà. Donc cette bulle ralentie dissipe, rend confus, pèse sur l'esprit, le corps, la fatigue qui l'accompagne parfois encourage Christobal à ne rien faire, à attendre que cela passe. Cet état prédispose au sommeil, à l'inaction et se confirme dans la durée par l'aboulie, la perte de volonté, et plus tard dans la perte de motivation. Voilà. J'ai envie d'avancer dans ce texte, hein, d'aller un peu plus loin.
Oui, vas-y, vas-y, je t'en prie.
À cette étape, je zappe le troisième paragraphe, à cette étape, généralement, je vous invite à lire cet article qui est sur atlantico.fr, un journal sur Internet qui est plutôt prohibitionniste, mais pas que, ça dépend, on a eu des bons articles aussi, mais pas beaucoup. Hein. Alors, à cette étape...
Ouais, il fait le paragraphe que tu sautes, c'est « On regrette rarement d'avoir osé, mais toujours de ne pas avoir essayé ». Et en tout cas, il dit dans les envies irrépressibles, hein, c'est des moments. Alors, je sais pas pourquoi il parle de ce processus d'envie irrépressible, mais bon, ça
arrive. Il parle du craving, ouais, mais c'est quelque chose qu'on va plutôt rencontrer chez des usagers de substances très accrocheuses.
Voilà, et psychiquement quand même, ce vécu s'illustre par le discours intérieur d'une partie du soi tyrannique ou dépendance qui domine par son exigence d'immédiateté.
L'immédiateté.
Fumer maintenant. Le reste n'a plus aucune importance. Et si ce n'est pas possible, tout est envisageable, y compris l'éventualité d'un passage à l'acte. Là, je ne sais pas de où il va quand même. Et, s'il ne délire pas un peu trop. Mais,
Oui.
Tout à fait. Donc, et ensuite, donc ça, c'est ces petits moments qui arrivent où il faut fumer maintenant, quoi. Mais c'est vrai que j'ai vu des gens se lever en soirée, aller faire le tour de Lyon pour essayer d'aller trouver une boulette de shit, quoi. Ça peut être n'importe quoi. Non,
oui, ça peut être un verre, ça peut être une clope aussi. Hein.
Ça arrive aussi pour les clopes. C'est donc, exact. Il y en a qui se levaient aussi pour aller acheter des clopes.
Ouais, qui se lèvent pour fumer la nuit, quoi.
Oui. Bref, en tout cas, après ces envies irrépressives qui peuvent arriver, il y a l'étape suivante que je t'ai coupé.
Oui, voilà. Donc, il nous reste 5 minutes, hein, c'est pour ça que je voulais avancer rapide. Hein.
T'as raison.
Voilà, donc à cette étape, généralement, donc, déjà quand on est bien dans la dépendance et qu'on est devenu le joint, parce qu'il dit on est le joint, il est son joint. Hein, l'adolescent ne pense plus, il planifie comment et qu'en fumer, il est son joint. Voilà, dans ces moments-là, il s'enferme parfois. Bref, histoire du passage à l'acte aussi. Voilà. Et à cette étape, généralement, le consommateur se raconte des histoires à propos de sa consommation. On dira qu'il rationalise dans le seul objectif de consommer. Ce sont les mêmes histoires, les scénarios qui justifieront de la difficulté, voire de l'impossibilité à arrêter. Ils alimentent aussi le mouvement qui encourage le fumeur à remettre à plus tard l'arrêt. Après celui-ci, je fais une pause et je me mets à réviser le bac, etc. La dépendance, quand et lorsqu'elle se met en place, finit par modeler l'ensemble de l'activité psychique. Le consommateur se retrouve aux prises avec un dilemme paradoxal. Plus il cherche à contrôler sa consommation, et moins il y parvient. Dans sa tête, il s'imagine luttant, fort d'une récente résolution. Mais dans les faits, la consommation augmente. Les moments sans de quoi fumer sont redoutés avec anxiété et évités à tout prix. Il faut de l'argent, blablabla. Donc là, il parle de vol, des parents, des frères, des sœurs. Là, on fait tout ce qui est en son possible pour avoir le produit.
Voilà, ce qui est souvent vrai pour les opiacés, beaucoup moins quand même sur ces drogues douces. Bien qu'il y ait des cas où on puisse voir.
Ce qui est intéressant dans cet article, c'est qu'il ne parle pas produit, le mec. Il parle de profil psy, en fait.
C'est vrai qu'il a un profil psy. Et ce même profil psy, on peut le retrouver pour des clubs ou pour de l'alcool, d'ailleurs. Alors, dans ce cadre-là, c'est
pour
vrai
du sexe.
Ou pour du sexe, tout
ça
à fait.
Ça peut être le cas.
Pour des jeux vidéo.
Je suis moins bien placé. Non.
D'accord, donc oui, sur le profil de psy, oui, pourquoi pas, c'est celui qui existe, mais qui est rare, quand même.
Et le gars du... Là, en plus, qui nous dit, quand il parle du gars qui est vraiment dans la dépendance, qui est arrivé à la réalité du bonbon joint, dit-il. Voilà. Il nous parle pas de personnes qui ont un profil de personnalité qui serait devenu psychotique, parce qu'on nous parle souvent de ça, que le cannabis ou les drogues entraîne à la psychose. Là, il nous parle pas de ça, hein.
Il enchaîne sur la fin, sur la recherche du plaisir et des sensations constitue un facteur essentiel qu'il est nécessaire de bien cerner. D'autant plus que le consommateur aura tendance à associer ce plaisir en réseau à de nombreuses activités.
Jeux vidéo, films, etc. séries, ou autres activités connexes. Ouais.
Et donc, il dit qu'il y a beaucoup de choses avec les c'est les bonbons joints dont tu parlais. Hein, et ces bonbons joints viennent aussi amener... l'identification, quoi. Il y a un joint pour tout, quoi. Il faut identifier les fonctions du joint, introduit le premier niveau de questionnement de son utilisation, et c'est là qu'il y a le joint antidépresseur, le joint anxiolytique, le joint ennui, le joint défonce, le joint somnifère, le joint social, les joints avant ou après le rapport sexuel, le joint masturbation, le joint pour lire, le joint pour se concentrer, le joint pour mieux travailler, le joint du matin au petit déjeuner pour démarrer la journée. Sans oublier celui des infos du soir, le joint du matin peut être aussi associé à la motivation. Je fume pour me motiver et passer la journée. Voilà, donc c'est tous les joints qui peuvent exister. À chacun son joint, pourrait même dit-il dire.
Oui.
Voilà, donc c'est la géométrie psychique du consommateur qui est complexe et évolutive.
Voilà, et donc pour terminer sur cet article, on vous informe qu'il existe en France des consommations jeunes consommateurs, des consultations jeunes consommateurs, des CJC. Voilà, et que des fois ça peut être pas mal de s'y rendre à partir du moment où la personne concernée est demandeuse, hein, sinon ça n'a pas forcément beaucoup d'impact positif, quoi. Il nous reste deux minutes qu'on va prendre tranquille, hein, enfin rapide, pour parler de cet article du Nouvel Obs qui nous parle de ces États qui ont légalisé le cannabis et qui ont vu baisser de 6% les décès, notamment les décès imputables à la consommation d'opioïdes, en fait.
Oui, tout à fait.
Voilà.
Alors, il faut souligner que la situation aux États-Unis est bien plus désastreuse qu'en Europe.
C'est une catastrophe,
en France.
Hein, c'est incroyable. Hein.
Sur ce point-là, même si voilà, le nombre de morts par opiacé est très élevé.
Alors, en 2015, hein, juste.
Alors, ce n'est pas que des morts par héroïne, hein, ne nous y trompons pas.
Non, c'est
pas.
Des médocs. Hein.
Ne nous y trompons pas. Il doit bien y en avoir quelques-uns, parce que sinon le compte n'y serait pas. Parce qu'il y en a 33 000 par an quand même, hein, qui meurent.
33 000 en 2015.
En 2015.
8 000 en 99.
Oui, donc ça a beaucoup
explosé.
Augmenté. Et donc il y en aurait 200 000 rien que pour depuis 15 ans, rien que pour l'industrie pharmaceutique. Donc ça se ferait ceux qui seraient justement des médicaments magouillés ou revendus ou surdosés ou je sais pas comment.
Non,
on peut dire là-dessus.
Mais même pas. Hein. C'est des médicaments, je me rappelle plus la marque là, on en avait parlé l'autre jour. Qu'on trouve dans les pharmacies et tout, mais qui sont prescrites un peu trop, peut-être. Mmh. Et en tout cas, ça fait l'objet de recherches aux États-Unis, hein, celle de professeur Melamide, qui avait fait des recherches là-dessus il y a déjà quelques années, et qui avait montré que pour certains patients qui sont concernés par certaines affections et qui ont besoin d'antidouleurs, on peut supprimer au moins la moitié des opioïdes et en les remplaçant par du cannabis. Et ça, ça remplit bien son office, en fait. Et donc, voilà, ben, dans ces États qui ont légalisé, on utiliserait moins d'opioïdes et peut-être un peu plus de cannabis. Et
tout
du coup, on a observé une baisse de 6% des décès.
Tout à fait, c'est exact, c'est ça.
Voilà.
Alors, c'est une grosse victoire pour la légalisation du cannabis et surtout pour les avantages du cannabis thérapeutique, hein,
voilà.
En plus.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que bon, aux États-Unis, beaucoup de choses se passent maintenant, hein, qu'il y a des États qui ont légalisé. Il y a quand même des grands médias qui se saisissent d'un certain nombre d'études. Et donc là, si on parle de ça, c'est aussi, c'est justement ce que le Washington Post, en fait, s'est procuré une étude qui parle de ça et qui l'a rendue publique il n'y a pas très longtemps, la semaine dernière. Et voilà. Après, ceux qui ont rédigé l'étude mettent en garde, ils disent oui, quand même, il y a peu de recul, on n'a que 2 ans de recul, et qu'il faudra voir un peu plus tard aussi quels sont les impacts de la légalisation, pas que sur une baisse de la prescription des opioïdes. Voilà. Donc des résultats encore à confirmer, nous dit-on. Parce que c'est pas partout pareil dans les États. Il y a des États où on a légalisé le cannabis récréatif et le thérapeutique, je pense à la Californie par exemple, au Colorado, mais dans le Nevada, on a autorisé que le thérapeutique, donc et pas le récréatif. Donc voilà. Le président américain s'intéresse lui-même à ces histoires d'overdose d'opiacés et voilà, il y avait un des membres de la DEA qui devait devenir le nouveau tsar antidrogue, qui a finalement pas été officialisé à son poste par Trump, en l'occurrence. Voilà. On va terminer là-dessus. Cannabis Circus s'achève. On essaiera de vous parler la semaine prochaine de la vigne qui a supplanté le cannabis au Liban, et donc on essaiera peut-être de reparler de cette épidémie d'opioïdes aux États-Unis, avec une industrie pharmaceutique sur le banc des accusés et qui a des liens avec la DEA.
On vient d'en parler quand même un petit peu dans cet article.
Oui, mais on n'a pas parlé de la corruption entre DEA et puis l'industrie.
C'est exact.
L'autre versant qui est intéressant à relater, à mon avis.
Mais je suis entièrement d'accord avec.
Voilà, le temps nous a manqué, donc c'est la fin de Cannabis Circus aujourd'hui. Et maintenant, c'est Chasseur de Son avec plein de DJ et plein de musique. Et puis voilà, ça va être bien. Allez, Chasseur de Son, et à la semaine prochaine. Au revoir.
Ciao à tous, ciao à tous.